Chers auditeurs, chers auditrices, nous continuons encore assez longtemps. Je pense qu'il y aura bien une trentaine de CD sur ce sujet pour la deuxième fois, puisque il y a environ 2 ans, j'ai déjà fait une série. Mais c'est quelque chose de très très important, il ne faut pas oublier. Sans le salut, on peut être tout religieux autant qu'on voudra, même se cacher dans un trou, une montagne, et être une sorte de marabout ou je ne sais pas tout quoi, n'est-ce pas? Et ça ne suffira pas. Donc, c'est un thème très sérieux. Moi, personnellement, je le prends très au sérieux. Alors, notre 6e étude, elle a comme titre « Dans quelle direction ?» Les événements se précipitent. Bouleversement politique, changement économique, conquête technique, catastrophe, etc. Le premier satellite artificiel fut mis sur orbite, et cela signifie que pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, il a été possible de projeter un objet si loin de la Terre qu'échappant à l'attraction terrestre, il n'y reviendrait plus, mais il ferait le tour de la planète pendant des semaines, voire des années. Quelle performance ! Qu'en est-il aujourd'hui ? Depuis ce premier lancement, des milliers d'autres satellites ont été envoyés dans l'espace. Depuis lors, des hommes sont même allés marcher sur la Lune. Et on projette d'aller sur Mars. Et pourquoi pas, 3-4 fois plus loin, l'être humain rêve de conquêtes inimaginables. On peut presque dire que le virtuel, ils essayent de le rendre réalité. Tous ces exemples pris dans la technique des fusées, cela illustre la rapidité, on peut bien dire la rapidité des progrès réalisés en peu de temps. Alors faut-il s'attendre à un âge d'or ? Mais dans cette même décennie, des progrès extraordinaires nous enregistrons par exemple l'évolution d'une terrible pollution universelle. Ça, c'est autre chose, attention. Elle prend des proportions alarmantes. Il y a même les mers qui sont envahies de milliers de tonnes de déchets. Et vous pouvez me croire. Ça veut être très, très grave comme conséquence. Je me demande si l'homme se rend compte. Il y en a, heureusement qu'il y en a, mais c'est trop tard. Donc nous sommes exposés aux effets nocifs d'une quantité de produits chimiques qui envahissent l'atmosphère, l'eau, le sol et même les aliments. Les insectes, il n'y en aura bientôt plus. J'ai observé les hirondelles, ils meurent parce qu'il n'y a plus de mouches, ou presque plus. Et le peu qu'il y a sont tellement dangereux avec tous les insecticides que l'hirondelle qui résiste, ça deviendra rare. C'est triste parce que ce sont des oiseaux que j'aime beaucoup. J'ai une grande admiration pour ces oiseaux, et c'est dommage. Est-ce qu'on voit encore des rouges-gorges et tout le reste qu'on a eu l'habitude dans des pays comme la Suisse, l'Autriche, la France, de moins en moins. Par contre, la criminalité, là, ça va bien. Ah oui, là, c'est pas en déclin. Elle augmente la violence et les meurtres sont à l'ordre du jour. Mon appartement était cambriolé deux fois. Et pourquoi pas une troisième? Je vous dis, ça devient très dangereux. Vous pouvez même pas aller à un bancomat sans vous faire peut-être poignarder pour parfois peu d'argent. Des attentats à la bombe provoquent l'insécurité générale. La jeunesse s'oppose de façon anarchique à tout ce qui est du passé. C'est ringard, nous, du passé. On est des minus, dépassés de loin, tout juste bons pour être peut-être mis dans des asiles psychiatriques. La tension internationale s'accroît donc. Nous avons le racisme, oh là là! Et comment? L'affrontement des idéologies et des systèmes politiques s'affirme toujours davantage. Nous vivons sur un baril de poudre. Les flammes jaillissent de partout. L'explosion finale et destructrice ne tardera certainement pas. Cependant, les hommes qui sont devenus enfants de Dieu par la conversion à Jésus-Christ, voilà quelque chose de ringard, et par la nouvelle naissance, voient ces événements totalement différemment. Ils reconnaissent que cette terrible réalité présente n'est pas autre chose que ce qui aboutira à l'accomplissement inéluctable de la prophétie biblique donnée depuis plusieurs milliers d'années. Les enfants de Dieu savent qu'une catastrophe sans précédent secouera encore une dernière fois l'humanité. Mais ils connaissent aussi le salut offert à tous, gratuitement, et qui permet, lorsqu'il est reçu, d'échapper à ces terribles jugements. Ils savent également qu'un âge d'or survivra à ce temps d'épreuve particulièrement intense pour l'humanité rebelle à Dieu. Les conditions de Dieu pour être épargnées de ce jugement qui est l'expression de sa colère contre le péché, sont déterminées par les points suivants. Voyons cela de plus près. Premièrement, tous les hommes sont pécheurs. Par conséquent, ils sont perdus et ils sont condamnés à un châtiment éternel. Romains chapitre 3, verset 9 à 19. Et notez encore le chapitre 5 de Romains, depuis le verset 12 jusqu'au verset 21. Je vous prie de noter, si vous pouvez, un certain nombre de ces indications bibliques, parce que je voudrais que vous puissiez comprendre que je ne vous raconte pas quelque chose par hasard ou de mon cru. Alors, s'il vous plaît, prenez un bout de papier, un stylo, et essayez de noter quelques citations pour les relire plus tard. Deuxièmement, un changement radical est nécessaire et possible en croyant à l'œuvre rédemptrice de Jésus-Christ. Notez Ézéchiel 33, verset 11, et Actes des Apôtres, chapitre 3, verset 19. Troisièmement, celui qui se détourne du péché expérimente ce changement en se tournant tout simplement vers Jésus-Christ avec la détermination de ne plus servir le péché, mais de servir le Seigneur. Il reçoit par ce témoignage du Saint-Esprit la certitude du salut éternel. Alors notez aussi Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 38, Romains, chapitre 3, verset 23 et 24, ainsi que le chapitre 6, verset 23, toujours de Romains, et Éphésiens, chapitre 1, verset 13 et 14. Et quatrièmement, ces croyants qui sont justifiés par Dieu, parce qu'ils sont purifiés par l'œuvre rédemptrice et réconciliatrice de Jésus, ils seront enlevés au ciel. Et oui, et cela avant que les jugements de Dieu ne viennent sur les peuples de la terre. Ils pourront donc être ainsi préservés en dehors de la plus grande catastrophe. Notez 1 Thessaloniciens, chapitre 4, versets 15 à 17. Et notez également 2 Thessaloniciens, chapitre 2, versets 6 et 7. Ensuite, die Offenbarung, c'est-à-dire Apocalypse, chapitre 3, verset 10. Et de nouveau, Saint Matthieu, chapitre 25, verset 10. Vous direz que je vous arrose de citations bibliques, mais il y a toujours une raison. Premièrement, voyez-vous, il y a des personnes qui ne sont pas toujours bienveillantes, bien gentilles, voyez. Et ils essayent de critiquer en disant « oui, oui, mais ça, il rabâche quelque chose de son cru ». Mais pour autant que certains d'entre vous croient que la Sainte Bible est vraiment quelque chose de très sérieux, alors pourquoi pas noter quelques citations pour vérifier ce que je vous raconte, si c'est vraiment, ou si ça se trouve vraiment, dans le Saint-Livre. Donc, après l'enlèvement de l'Église de Jésus-Christ au ciel, la puissance des ténèbres atteindra son comble sur la terre. Mais, à la fin de cette période du jugement, poindra enfin l'âge d'or, tellement désiré, un règne de paix de 1000 ans, sous l'égide de Jésus-Christ, roi des rois, le Messie. Notez Daniel, chapitre 7, versets 25 à 27, 2 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 8, et à nouveau Apocalypse, chapitre 20, verset 1, jusqu'au verset 6. Mes chers amis, l'heure de la décision sonne. Ouvrez vos yeux et voyez ce qui se passe dans la nature, dans la technique, dans la politique, etc. Comparez vos conclusions avec la Sainte Parole de Dieu. Vous trouverez des rapports surprenants et l'inspiration biblique s'imposera d'elle-même à vos esprits par vos propres déductions. Mais surtout, la Sainte Bible vous montrera vos états de perdition et la fausse direction de votre chemin. Elle vous indiquera aussi la véritable route à suivre pour échapper non seulement aux jugements temporaires qui vont venir sur ce monde malheureusement, mais surtout aux jugements éternels. Au jugement éternel, en trouvant la vie et le bonheur éternel. Lisez donc, s'il vous plaît, la Sainte Bible, prenez du temps pour cela, pourquoi pas chaque jour que, par exemple, un chapitre. Un chapitre, ce n'est pas la mer à boire, et cela vaut la peine. Jésus-Christ est aussi venu pour vous, et pour vous aussi. Il est descendu dans la mort. Il vous offre donc aujourd'hui la vie éternelle. Cela tient à vous, et oui, de simplement accepter ce cadeau de la grâce, car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils bien-aimé unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Saint Jean, chapitre 3, verset 16. Mais, chers amis, permettez-moi maintenant que nous avons vu ensemble la direction de voir aussi ensemble, et cela Pour compléter ce message, où se trouve donc le chemin? Wo? Where have we to go? Rien n'est plus désagréable que d'arriver étranger dans une grande ville et de devoir chercher un endroit déterminé parmi des centaines et des centaines de rues et de places totalement inconnues. Mais c'est encore bien pire de se trouver en rase campagne ou en pleine brousse à un croisement de plusieurs sentiers et de ne pas trouver un seul poteau indicateur ou quelqu'un pour nous renseigner. Que faire? Par où aller? Quel chemin dois-je choisir? Où allons-nous? Que vous le croyez ou non, des millions d'êtres humains commencent le voyage de l'éternité sans aucun guide ni boussole. Ils naissent, ils grandissent, ils étudient, travaillent au champ, à l'usine ou au bureau, ils se marient, ils s'amusent ou parfois ils souffrent. Alors ils vieillissent et ensuite ils meurent. Parce que ce n'est pas éternel la vie ici-bas. Elle est beaucoup plus courte que vous pensez. Donc ils meurent. Et si vous ne le croyez pas, lisez les journaux où il est démontré dans les choses mortuaires qu'il y a même des enfants qui se trouvent dans des hôpitaux avec des cancers et autres terribles maladies, qu'ils doivent lutter, vraiment, c'est une lutte on peut dire de mort ou de vie, sans avoir eu un but précis, non seulement toute l'humanité en général, heureusement pas tous, ils ignorent quelle est leur raison d'être sur cette terre. C'est grave cela, parce qu'ils sont tellement sûrs qu'avec toute la technique qu'ils ont, avec tous les gadgets, qu'il n'y a pas besoin de penser à l'au-delà. L'au-delà, c'est terminé, n'existe pas. C'est, tout ça, c'est bon pour des gens qui ont un peu d'Alzheimer. Mais attention, qui rira bien rira le dernier. Y a-t-il une plus grande folie que cela? Dites-moi, monteriez-vous, chers amis, très volontiers, dans un autobus, un train, un avion ou un bateau dont l'équipage, les autres passagers et vous-même ignorent totalement leur destination, qu'on ne nous dise pas où ça va nous mener. Vous souriez peut-être, et vous pensez que c'est une supposition absurde émise par celui qui vous parle maintenant, un peu dépassé ou coincé. Eh bien, voilà ce que bien des gens font aujourd'hui. Vous-même, peut-être, qui traversez la vie sans trop savoir où elle s'arrêtera, eh bien, faites attention, il existe un guide sûr. Ah oui. Et cette carte routière, digne de cette boussole infaillible, qui nous indique le chemin de l'externe, on peut dire, de l'éternité qui existe, hein? Et cela sous la forme d'un livre. Et ce livre, c'est la Sainte Bible. C'est le livre par excellence. C'est le livre, je dirais, de Dieu. C'est le volume le plus contesté et le plus aimé. La pure révélation de son divin auteur. Et de nos jours, beaucoup ont entendu parler de la Bible, évidemment. Elle se trouve même dans bien des foyers. Mais combien l'ont réellement lu? Combien sont ceux qui, on peut dire, qui l'étudient chaque jour pour nourrir leur âme du pain de la vie? Qui peut répéter avec le prophète Jérémie « J'ai recueilli tes tes paroles, ô Éternel, et je les ai même dévorées. C'est ce qu'il a dit. Je les ai même dévorées. Tes paroles ont fait la joie, dit-il, et ont fait l'allégresse de mon cœur. Ça se trouve dans Jérémie chapitre 15, verset 16. Oui, la Bible, la sainte parole de Dieu, n'est donc pas un livre religieux quelconque, simplement plein de certaines pensées humaines, plus ou moins pieuses, pourquoi pas, et d'une époque totalement révolue, comme certains autres livres. Je ne veux pas faire de mal à personne et être critique ou dénigrer qui que ce soit. Mais soyons sincères, c'est quand même le livre des livres. Tout au contraire, la Sainte Bible, c'est vraiment un livre actuel. C'est un livre vivant et vrai, propre à révéler l'état de notre cœur et à le transformer, ce cœur. Et ce livre nous montre fidèlement le chemin de la vie présente et le chemin du ciel. Il est donc le seul chemin. Oui, la Sainte Bible est le guide sûr qui nous indique le seul chemin de la paix avec Dieu, le chemin du pardon des péchés et de la vie éternelle en Christ. Pour le suivre, il faut passer par les étapes suivantes. Je vais vous les dire, hein. On dit énumérer en français, hein. Eh bien, je vous dirai 5 exemples. Premièrement, nous sommes donc tous pécheurs, en tout cas, je le crois. En ce qui me concerne, j'ai pas de doute. Et donc, de ce fait, nous sommes coupables devant Dieu. Il n'y a point de juste, pas même un seul, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Romains, chapitre 3, verset 23. Deuxièmement, en face de la terrible réalité du péché, la Bible nous parle de remords et de repentance ou changement de mentalité. Le publicain, se tenant à distance, il n'osait même pas lever les yeux au ciel, mais il se frappait la poitrine en disant « Ô Dieu, sois apaisé envers moi, moi qui suis un pécheur. » Saint Luc, chapitre 18, verset 13. Troisièmement, Dieu veut, il veut que nous lui confessions directement nos péchés en lui demandant pardon. Pas besoin d'aller chez une éminence ou quelqu'un encore de beaucoup plus important. Non, adressons-nous simplement au Seigneur Jésus-Christ, son Fils bien-aimé, ou directement à Dieu le Père. Il est dit que celui qui cache ses transgressions ne peut pas prospérer, mais celui qui les avoue tout simplement et les laisse, plutôt les délaisse, voyez-vous, il ou elle obtient la miséricorde. Proverbe, chapitre 28, verset 13. Quatrièmement, croyez tout simplement que Dieu vous sauve par sa grâce et par sa miséricorde, non pas par les bonnes œuvres ou par les sacrifices que vous auriez faits. Il nous sauve donc, car il accepte le seul sacrifice de son Fils bien-aimé Jésus-Christ sur la croix. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et ça, ou cela, ne vient pas de vous, mais c'est le don de Dieu. Ce n'est point par des œuvres, afin que personne ne se glorifie. Éphésiens, chapitre 2, verset 4 jusqu'au verset 9. Et cinquièmement, acceptez donc simplement Jésus-Christ et confessez-le autour de vous, parlez-en. Et c'est pourquoi quiconque me confessera devant les hommes, je, moi, Jésus-Christ, je le confesserai aussi devant mon Père, qui est dans les cieux. » Saint Matthieu, chapitre 10, verset 32. Chers amis, accepter Jésus-Christ, c'est naître de nouveau. Eh oui, c'est commencer une nouvelle existence. C'est de marcher dans le bon chemin. Car Jésus seul est le chemin, la vérité et la vie. Chers amis, s'il vous plaît, notez Saint Jean, chapitre 8, verset 12. Et là, Jésus dit, « Je suis la lumière du monde. » En effet, Jésus-Christ, la lumière du monde, n'est-ce pas présomptueux et exagéré? Je viens de terminer une série sur Jésus-Christ, la lumière du monde. Jusqu'au retour de Jésus-Christ, en étant devenu le Messie pour ce monde. Donc, vous pensez peut-être c'est un peu présomptueux ou même exagéré. Ne sommes-nous pas parfois saisis d'accablement en voyant l'évolution de ce monde? Il est entraîné, me semble-t-il, à un rythme toujours plus rapide vers l'abîme. Et dans cet environnement, le message de Jésus-Christ est-il encore actuel? Avec tous les gadgets tous les jours qui sortent, hein, pour les jeux vidéo et compagnie, qui aura même 5 minutes pour s'intéresser à son âme, pour s'intéresser à l'éternité d'éventuellement de son âme et de son esprit? Qui? Bientôt personne. Tout est très sombre dans ce monde. Il y a des armes de plus en plus destructrices qui menacent l'humanité. Sans cesse, des milliers de vies humaines sont sacrifiées à l'idole de la guerre. Bien des peuples sont affamés et la misère des réfugiés augmente. Il y a l'alcoolisme, la drogue, la criminalité, sont suivis du cortège des maux qu'ils engendrent. L'humanité est engagée dans une impasse sans issue, et par elle-même, elle ne peut se diriger. Dans cette situation, Jésus dit « Je suis la lumière du monde ». En quoi consiste cette lumière ? Eh bien, cette lumière, en ce qui me concerne, elle éclaire notre passé. Que l'homme le veuille ou non, son passé pèse sur lui, et j'en sais quelque chose. Peut-être, direz-vous, je ne suis pas préoccupé par le péché, je n'ai aucun sentiment de culpabilité. Alléluia. Oh non, pas alléluia. Par cette réflexion, vous vous trompez vous-même. Ce n'est pas vrai, pas du tout vrai, que l'homme ne souffre pas sous le poids de ses péchés et du passé. Quand je me suis tu, est-il dit dans le psaume 32, mes os ont dépéri, quand je rugissais tout le jour. Psaume 32, verset 3. Voyez-vous, une question, pourquoi les salles d'attente des neurologues sont-elles tant encombrées? Le poids de votre passé vous accable. Alors recherchez la lumière, qui est l'unique solution. Et l'unique solution est vraiment Jésus-Christ, la lumière. Il est dit, je suis la lumière du monde. Il est venu pour prendre notre péché sur lui et pour nous en délivrer. Celui qui n'a pas connu le péché, Dieu l'a fait péché pour nous, pour toi, mon frère, comme pour moi. 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 21. Venez avec votre passé à celui qui est la lumière et vous réaliserez cette parole qui dit « Si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. » Ésaïe 1, verset 18. Oui, Jésus, la lumière du monde, éclaire notre présent. Pour commencer, notre présent. Quel est le premier problème de l'homme? C'est, à mon avis, la peur. Le nombre des suicides augmente sans cesse. Il ne s'agit pas ici de la peur de la mort, non, non, mais de celle de la vie, incroyable mais vraie. La peur de l'élève face à ses devoirs, la peur de la jeune fille de ne pas trouver d'amis, la peur des parents de ne pas réussir dans l'éducation des enfants. Quelle est votre peur? Il est dit, je suis la lumière du monde, n'ayez plus peur. Et Jésus vous dit, vous avez de la tribulation dans le monde, mais ayez bon courage, car moi, j'ai vaincu le monde. Saint Jean, chapitre 16, verset 33. Voilà donc ce qu'il promet, et tous ceux qui se mettent résolument de son côté, à ceux qui l'ont accepté comme leur sauveur et Seigneur, personnellement, c'est important. Alors ne voulez-vous pas faire ce merveilleux pas maintenant? Pourquoi pas? Alors vous réaliserez que quelqu'un est près de vous, que ce quelqu'un vous tient et vous porte. La lumière du monde éclaire l'avenir. Une jeune fille de 15 ans écrivait récemment « La jeunesse n'a personne pour lui dire quel est le sens de la vie. Personne qui montre le chemin. Nous sommes sans but, nous ne savons pas où conduit la route. Jeune homme, jeune fille, ta vie a-t-elle un but? Et vous, mes aînés, de quoi vivez-vous? Chacun, jeune ou âgé, doit avoir une lumière qui éclaire son avenir. Je suis la lumière du monde et votre avenir vous semble sombre comme un phare. Oui, comme un phare. Jésus veut éclairer votre vie. Suivez-le et votre vie sera assurée et vous pouvez me croire, elle deviendra claire. Votre but sera donc Jésus-Christ. Car il dit, je viens bientôt. Si vous êtes enfant de Dieu, ce n'est pas le chaos général que vous attendez, mais Jésus-Christ qui revient. Celui qui me suit, est-il dit, ne marchera point dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Saint Jean, chapitre 8, verset 12. Chers amis, et d'ici, où irons-nous? Ça, c'est l'incertitude de cette vie, mais c'est une réalité. Malgré tout ce que Dieu a révélé au sujet de l'avenir, il y a une chose qu'il ne fait pas connaître aux hommes, et c'est la mesure de leur jour, de sorte que personne ne sait quand sa vie finira. Le temps de notre départ d'ici-bas est une des choses cachées qui sont à l'Éternel, notre Dieu. Notez Deutéronome, chapitre 29, verset 29. Et c'est pourquoi David plaidait en vain lorsqu'il priait. Il a dit, Éternel, dis-moi, quel est le terme de ma vie? Quelle est la mesure de mes jours? Que je sache combien je suis fragile. Psaume 39, verset 5. Dieu a clairement révélé la fragilité de la vie, comme nous le verrons bientôt. Mais il n'annonce pas à l'avance quand, où et comment notre vie présente deviendra une chose du passé. Dieu a sa propre sage raison de nous empêcher de connaître ces choses. Vous avez beau aller chez une diseuse d'aventures, tireuse de cartes et autres, avec tous les pendules, eh bien, croyez-moi, vous n'arriverez pas à savoir. Se peut-il que la raison principale de cela, par exemple, soit le fait qu'il nous veut toujours prêts à mourir lorsque le temps en sera venu? Mais Dieu nous a dit, dans sa sainte parole, certaines choses sur notre vie terrestre qu'il aimerait que nous n'oublions jamais, comme par exemple, premièrement, la fragilité de l'homme. Hein? La vie de l'homme dans ce monde est comparée dans la Bible aux choses suivantes. A, une ombre. 1 Chronique 29, verset 15. B, à un aigle qui fond sur sa proie. Job, chapitre 9, verset 26. C, à une fleur. Job 14, verset 2. D, à un songe. Job 20, verset 8 et 9. Et, à la largeur de la main. Psaume 39, verset 5. F, à un rien. Psaume 39, verset 6. G, à un souffle, à un simple souffle. Psaume 78, verset 39. H, à un son. Psaume 90, verset 9. I, à l'herbe. Psaume 103, verset 15 et 16. I, à une vapeur. Chaque 4, verset 13 à 15. Voilà donc la faiblesse. Et voilà la fragilité de notre vie. Nous avons, deuxièmement, la brièveté de la vie humaine sur la terre. Les images présentes, employées pour illustrer la fragilité de l'homme, parlent aussi de la brièveté de cette existence terrestre. Ceci est aussi compris dans ce que Job dit de la vitesse avec laquelle cette vie passe. Oh là là, j'en sais quelque chose. Moi qui ai 88 ans, il semble que hier, j'étais encore loin d'être ce que je devrais être pour être un véritable enfant de Dieu. Nos jours sont plus rapides que la navette du tisserand. Job 7, verset 6. Le Talmud nous dit que la vie dans la chair passe rapidement. Elle passe comme le souffle de notre bouche en hiver. Quelqu'un a exprimé cette pensée avec les solennelles conséquences qu'elle entraîne dans les lignes suivantes. Écoutez bien. Vous qui tremblez sous la terreur que la mort vous inspire, venez, notre libérateur a détruit son empire. Avec lui, nous revivrons, et avec lui, nous régnerons, et la mort ne sera plus. Gloire, oui, gloire à Jésus-Christ. Chers amis, employez-vous pleinement votre vie pour Dieu, pour un monde perdu et pour vous-même. Troisièmement, nous avons la soudaineté avec laquelle la vie finit souvent. Combien souvent la mort frappe sans le moindre avertissement. Dernièrement, un motard, il est parti tout joyeux, il allait rejoindre sa chérie, sa fiancée. Il n'est jamais arrivé vivant. À un croisement, on peut dire un camion, puisque c'était bel et bien un camion, a malheureusement traversé, et vous savez, une moto contre un camion, c'est le plus souvent fatal. Et il en était ainsi dans le passé. Actes des Apôtres, chapitre 5, verset 5, jusqu'au verset 11, notez bien cela. Et il en sera de même jusqu'à la fin. 1 Thessaloniciens 5, verset 3. Lorsque la mort, le grand ennemi de l'homme, sera finalement détruite, 1 Corinthiens 15, verset 26, c'est ainsi que pendant que j'écrivais cette étude, un jeune homme marié fut soudainement électrocuté. Ça, c'est une autre histoire vraie. C'était dans les journaux. Électrocuté près de chez moi. Il paraît qu'ils ont oublié de couper le courant. C'est, à mon avis, inadmissible, mais l'être humain, est-ce qu'il est vraiment toujours infaillible? Il ne semble pas. Job a certainement exprimé la vérité lorsqu'il a dit « Ils sont coupés comme la tête des épis ». Job 24, verset 24. Personne ne sait non plus quand Christ reviendra. Ça, c'est encore un des secrets de Dieu. Cependant, il n'y a aucune incertitude sur le fait de son retour. L'Ancien Testament abonde en prédictions de ce grand événement. Le Nouveau Testament est plein de cette même vérité prophétique. Et la parole même du Seigneur, quand il a dit à ses disciples, cela est d'une importance spéciale lorsqu'il leur dit dans son discours d'adieu, « Et lorsque je m'en serai allé, a-t-il dit, je reviendrai. » Saint Jean 14, verset 1 à 3. Sa dernière parole adressée du ciel, c'est « Et voici, je viens bientôt ». Chaque chrétien devrait répondre avec l'apôtre Jean. Amen. Oui, viens, Seigneur Jésus, viens. Apocalypse 22, verset 7, verset 12 et verset 20. Et cela, l'expression du désir de vos cœurs en vue du retour du Seigneur Jésus-Christ. Une autre chose qu'il vaut quand même la peine de noter ici, bien qu'il n'y ait aucune incertitude à son sujet, c'est que la vie des multitudes révèle clairement, quatrièmement, la vanité de la vie sous le soleil. Voyons ça cela de plus près. C'est là le message du livre de l'Ecclésiaste, dont la clé pour le comprendre est l'expression « sous le soleil ». Ce livre de la Bible que tant de personnes trouvent difficile à interpréter, il faudrait d'abord avoir le courage de commencer à le lire, mais comme personne n'a plus le temps de lire la Bible, eh bien, la plupart ne savent même pas où se trouve ce livre de l'Ecclésiaste, sans compter du très grand livre des psaumes. Tout cela devient parfaitement clair quand nous réalisons que Dieu décrit en quelque sorte l'histoire de l'homme naturel, c'est-à-dire de l'homme qui vit sa vie sur la terre dans son état naturel. Ça veut dire d'impiété et sans régénération, sans aucun égard pour Dieu ou pour les choses de Dieu. La sphère de son existence est limitée aux choses terrestres uniquement, aux choses physiques, matériel et temporel. Vous avez beau être un athlète, faire de la culture physique, et j'en passe. Et même ceux qui font cela, un jour ou l'autre, ils doivent laisser leur enveloppe derrière eux. Ça, c'est une vérité infaillible, incontournable. Et la conclusion répétée de tous ces raisonnements sur une telle existence, c'est qu'elle n'est que vanité et vexation d'esprit. Le jugement de l'Ecclésiaste est absolument juste, car la vie vécue sous le soleil ne vaut pas la peine, vraiment pas trop la peine d'être vécue. Il aurait beaucoup mieux valu pour celui qui vit une telle vie sans Dieu qu'il ne fût jamais né, car il est destiné à finir dans la faillite de l'éternelle séparation de Dieu et de tout bien. Saint Luc 16, verset 26. Chers amis, votre vie est-elle une vie de vanité? Si oui, montez plus haut que le soleil et vivez dans la lumière de la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. 2 Corinthiens chapitre 4 verset 3 jusqu'au verset 6. Maintenant, le temps est donc venu de répondre à la question « Et d'ici, où irai-je ?» Maintenant, oui, maintenant, dans son sens le plus large, cela signifie l'année favorable du Seigneur, c'est-à-dire la période de la grâce de Dieu sur la base des mérites de Jésus-Christ envers des pécheurs méritant l'enfer. Car nous méritons tous l'enfer sans Jésus-Christ. Saint Luc chapitre 4 verset 16 à 19. Cette dispensation, elle est aussi appelée le jour de grâce. Déjà, elle compte plus de 2000 ans, selon notre manière de compter le temps. Mais elle est comme un jour pour Dieu. Psaume 90, verset 4 et 2e épître de Pierre, chapitre 3, verset 8 à 10. Quant au juste, ce jour du salut pour les justes finira et personne en dehors de Dieu ne le sait. Cependant, nous savons qu'il est plus près qu'il ne l'a jamais été. Et chaque moment le reproche encore. Oui, c'est maintenant. Maintenant, dans son application personnelle, qui devrait tous nous concerner, cela définit donc la période de la vie sur la terre, laquelle peut être restreinte à l'étroite marge d'aujourd'hui, ou si vous voulez à l'heure présente, ou encore à ce moment même, car un peu de temps, un simple clin d'œil, peut me faire arriver au ciel, ou me précipiter là où je ne voudrais pas y aller. Mais quoi qu'il en soit, nous savons que l'offre du salut de Dieu n'est que pour un temps limité, comme il nous l'affirme. Voici maintenant, est-il dit, le temps favorable. Voici maintenant le jour du salut. 2 Corinthiens chapitre 6 verset 2. Donc, par conséquent, gardez-vous du mensonge satanique le plus populaire et si courant, selon lequel il y a moyen, paraît-il, de se sauver après la mort. Et cela par une soi-disant deuxième chance. Pourquoi pas une troisième? Pour tous ceux qui auront rejeté ou simplement négligé le salut offert par Dieu dans cette vie actuelle. Or, la sainte parole de Dieu n'offre pas d'autres possibilités, une deuxième possibilité ou une troisième, pourquoi pas une quatrième. Non, ça n'existe pas. Une telle espérance n'existe pour quiconque meurt d'une façon abrupte sans le salut. Or, la sainte parole de Dieu, elle n'offre pas de telles espérances pour quiconque meurt dans ses péchés. Si je meurs dans mes péchés, sans avoir accepté le salut offert par celui qui est mort à la croix, qui a versé son sang précieux pour moi, j'ai aucune chance, aucun espoir. Notez Saint Jean chapitre 8, versets 21 et 24. La délivrance du péché, de la mort et de l'enfer est une chose qui doit s'obtenir maintenant ou jamais. Je dis bien maintenant ou jamais. Donc, chers amis, obtenez-la maintenant. Acceptez la main tendue de Jésus-Christ maintenant. La peur de la mort qui tient dans l'esclavage tous ceux qui ne sont pas prêts à mourir n'existe pas tellement à cause de la mort elle-même, mais à cause du jugement, après la mort. Hébreux 9, verset 27. Et ils ont bien raison d'avoir peur, car comme le dit le psalmiste, c'est pourquoi les méchants ne résistent pas au jour du jugement, ni les pécheurs dans l'assemblée des justes, car l'Éternel connaît la voie des justes et la voie des pécheurs mène à la ruine. Psaume chapitre 1, versets 5 et 6. Chers amis, êtes-vous encore un pécheur, impie, vacciné, diplômé, etc.? Eh bien, je vous implore humblement, mais avec amour, prenez la chose au sérieux. C'est une question de vie ou de mort, dans le sens de l'éternité. S'il en est ainsi, une bonne nouvelle peut vous attendre. Voyez-vous, c'est que Christ est mort pour les impies, pour les pécheurs, pour tous ceux qui ont glissé sur une peau de banane. Comme moi, personnellement, c'était vraiment mon cas. Romains, chapitre 5, verset 6. Alors, cela signifie que Jésus-Christ est mort pour vous racheter. Par conséquent, confiez-vous en lui pour votre salut et vous n'aurez plus à craindre pour votre avenir ici-bas ou pour l'au-delà, car vous serez compté parmi les justes, étant saints et saufs à jamais. En croyant la sainte parole de Dieu qui m'enseigne que je suis un pécheur perdu, et c'était vraiment vrai, et que Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs, eh bien, dites simplement, c'est pas compliqué, il n'y a pas besoin des grandes palabres. Je reçois Jésus-Christ maintenant comme mon sauveur et maître, et par sa grâce, je me propose de le confesser comme tel devant les hommes. Chers amis, nous allons prier maintenant. Une courte prière suffira. Disons simplement, merci Seigneur, que tu nous dis que pour tout cœur qu'il veut, Dieu a dans le ciel une demeure, une maison préparée. et quiconque cherche trouve dans le Seigneur une aide efficace au temps du besoin. Ah oui, celui dont le cœur n'est pas établi dans la vérité, dont la nature n'est pas sous le contrôle de la loi et de l'amour saint, est exposé à l'influence de séduction du mal. Car tu dis qu'il n'y a aucune sécurité pour l'âme qui n'est pas née de la bonté de Dieu. Celui qui n'a pas cette position est moralement exposé aux influences qui l'attirent vers les ténèbres du dehors. Oui, celui qui souhaite être disciple de la vérité et qui désire entrer dans le repos doit se refuser le plaisir de suivre les penchants impurs de son cœur pécheur. Je t'implore, ô Seigneur, fais-moi la grâce d'être ton disciple. Amen. Amen. Et chers amis, à demain matin, Dieu voulant, une autre étude, il y en aura beaucoup, concernant le salut. Car le salut est un thème très très important. C'est pas le tout de vouloir avoir tous les dons inimaginables. D'abord, essayons de bien comprendre ce que représente l'importance du salut. Donc, demain, une nouvelle étude concernant le salut. À bientôt donc, chers amis, et que le Seigneur vous bénisse. Au revoir.